Nous sommes en compagnie de Gilbert Glassman, qui, avec son ami Léon Vichnien, a fondé Cité Philo, qui agite depuis 15 ans les neurones des Lillois. Alain Lhomme est président de Cité Philo, et Gérard Engrand est philosophe, et a par ailleurs dirigé l'École nationale d'architecture et du paysage de Lille. L'art de faire sera cette année le fil conducteur de Cité Philo, avec pour invité d'honneur l'historien Carlo Ginzburg. Alors Gilbert Glassman, vous étiez trotskiste, Léon Vichnien, votre copain de toujours, était maoïste, et tous les deux vous êtes entrés au Parti communiste et vous avez même rencontré Althusser. Alors j'imagine que c'est dans votre jeunesse que l'on trouve les racines de votre goût pour la philosophie et l'envie de la faire partager au plus grand nombre.
Peut-être dans notre jeunesse, dans notre... Je ne pourrais pas vous dire très précisément les raisons pour lesquelles on est arrivé à avoir cette envie de philosophie, de partager aussi avec d'autres personnes de la philosophie. Moi, personnellement, j'ai fait des études de mathématiques. Et les mathématiques, c'est aussi une façon de s'interroger sur le monde, comment il est fait, et de se poser des questions. Et il est probable que je n'ai pas trouvé toutes les réponses. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé toutes les réponses aux questions, mais j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus élaboré. Et voilà, la découverte de la philosophie en terminale m'a ouvert d'autres horizons. Voilà.
Alors, puisqu'on a trois philosophes autour de la table dans le studio, on va poser peut-être la même question à Alain Lhomme. Pourquoi la philosophie? Pourquoi avez-vous consacré votre vie à la philosophie?
Ça a été très très précoce. Moi, je voulais au départ faire des études d'histoire quand j'étais l'équivalent du lycée, qui était en fait l'école normale primaire d'instituteur, où j'étais rentré en seconde. Et j'avais choisi de faire une terminale philo pour devenir historien, sans doute en liaison avec mon milieu de militant communiste, le marxisme, l'histoire. J'ai baigné là-dedans et donc je suis allé faire ma terminale philo avec cette ambition-là. Et puis là, j'ai viré ma cutie, j'ai décidé que ce serait la philo. Je discutais beaucoup avec ma prof de philo. C'est d'ailleurs elle qui m'a parlé pour la première fois d'Althusser. Moi, j'avais fait un exposé sur le marxisme à partir du gros ouvrage de Jean-Yves Calvez. Et je me rappelle qu'après cet exposé qui avait duré 2 fois 2 heures, elle m'avait dit « Maintenant, faut que vous lisiez Althusser ». Et je n'avais jamais entendu ce nom-là, d'ailleurs. J'ai eu rendez-vous avec Althusser en Hippocagne, où j'avais quelques amis qui étaient membres de l'UJCML. Nous avons discuté de façon extrêmement serrée. J'ai lu pour Marx, j'ai lu lire Le Capital. J'étais très très rallié à pour Marx, plus critique par rapport à Le Capital. Et les petits camarades du JCML ont fini d'ailleurs par dissoudre le cercle de lecture de Marx où je me rendais et où je portais la contradiction. Voilà, donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi le goût de la philosophie pour elle-même. Et là, bon, à partir de là... En classe préparatoire, j'ai fait philo. Toutes mes études ensuite ont été études de philo. Pourquoi? Oui. Parce que sans doute un goût pour la pensée, puis un goût aussi pour les concepts, enfin pour une certaine façon d'aller chercher, dans les ressources conceptuelles de la pensée, de quoi maîtriser un certain nombre de choses,
voilà. Mais penser. De quoi nourrir sa vie finalement. Ouais. Gérard Engrand, la même question. En parlant dans le micro, par contre, ce serait drôlement bien.
J'étais très fasciné par la philosophie, mais que je pensais finalement comme... que je résumais par le mot spéculation, par le mot pensée, tout simplement. Et je faisais des études de philo avec l'idée que jamais je ne voulais enseigner de ma vie. Bon, j'ai fait 40 ans d'enseignement, je n'ai pratiquement jamais quitté réellement le milieu de l'enseignement. Mais pas à des philosophes, d'ailleurs. Et j'ai croisé la route de Bourdieu, qui m'a... ravi, capté, coincé, et pendant 30 ans, je n'ai plus fait de philosophie. J'y suis revenu à l'âge de 40 ans à peu près, et depuis, je me sens à nouveau philosophe, effectivement.
Alors, 15 ans, les 15 ans de Cité Philo, c'est l'âge d'or de l'adolescence. C'est pas encore le moment des bilans, mais on a quand même quelques années derrière soi. Alors, comment cette aventure un peu folle de Cité Philo a-t-elle commencé, Gilbert, vous qui êtes la mémoire vivante?
Oui. En profiter pendant que j'en ai encore un petit peu. Donc en 97, on décide de faire cette expérience. C'était une tentative, on ne savait absolument pas ce que ça allait donner, de sortir. On sentait qu'il y avait, chez de nombreux professeurs de philosophie que nous connaissions, l'envie de sortir de leur classe, ou de leur séminaire, ou de leur colloque. Et donc en 97 à Lille, on lance cette première édition et à notre grande surprise, nous avons rencontré le public tout de suite. Il y a eu un succès public, on peut le dire, oui. C'était une semaine la première année. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle la Semaine européenne de philosophie. On n'a pas rajouté de S, puisque maintenant on est passé à quasiment 3 semaines. Et puis à partir de cette première année, eh bien, on a décidé de poursuivre. Voilà, 98, à partir de 98, on a décidé chaque année de mettre un coup de projecteur sur un pays ou sur un invité d'honneur. On a parcouru un peu tous les pays d'Europe, on a fait venir quelques grandes figures de la philosophie, comme Claude Lefort ou Stanley Cavell, des pays plus lointains, l'Iran, l'Inde, voilà, c'est inépuisable, en fait.
Ah bah oui,
on a encore
15 ans devant vous, sans problème.
Oui, et après nous, même.
Alors, Alain Lhomme, vous êtes aujourd'hui le président de Cité Philo. Et quel est votre regard, vous, sur ces 15 années passées, vous qui ne l'avez pas fondé?
Alors, je précise d'abord que je suis président de l'association Philo Lille, qui fabrique Cité Philo. Ce sont deux noms que j'aime bien conjoindre, parce que ça rappelle d'abord que le fonctionnement de Cité Philo repose sur une association loi de 1901, et donc sur un énorme apport en termes de bénévolat. Ce sont les 60 membres de l'association qui, tous ensemble, sous la houlette de notre délégué général Gilbert Glassman, conçoivent, construisent, fabriquent cette manifestation, ce qui nous demande à peu près une année de travail. C'est-à-dire qu'on a à peine terminé une édition qu'on commence à penser à la suivante. Bon. Moi, j'ai rejoint Cité Philo assez tôt, hein, puisque lorsque Gilbert Glassman et Léon Vizinha ont débarqué à Lille, si je puis dire, ça n'était pas sans biscuits. Ils avaient un certain nombre d'adresses. Ils savaient qui il était peut-être souhaitable de contacter. Et comme moi, j'avais été membre, j'avais été le correspondant régional du Collège international de philosophie pendant 6 ans. J'avais d'ailleurs été membre du collège. Ils avaient par le collège eu mes coordonnées et ils m'ont contacté très vite. J'avais également pendant plusieurs années participé à la publication d'une revue où Gérard d'ailleurs également était venu travailler avec nous, qui s'appelait Les Cahiers de philosophie, qui a été publié pendant une bonne dizaine d'années, qui a publié une vingtaine de numéros. Donc voilà, il savait que j'avais par ces deux expériences, sans doute, le goût de les rejoindre dans cette aventure.
Oui, mais là, c'était pas un hasard, finalement, que vous soyez rencontrés.
Non, là, il y avait une rencontre qui était presque programmée. Voilà. Bon, ces 15 années, mais écoutez, moi, ce qui m'a passionné dans l'aventure, d'abord, je trouve que Cité Philo est un formidable intellectuel collectif. C'est ce qui me manquait, moi, après la disparition de la revue. C'est ces lieux où, tous ensemble, on élabore, on réfléchit, on suit l'actualité, on échange les lectures, et on essaye de se faire une certaine conception partagée de ce qui est l'actualité philosophique et intellectuelle. Hein, on essaye de réfléchir sur les grandes tendances du moment, et on ne peut pas le faire seul. Et se retrouver comme ça, une quinzaine, une vingtaine, bon, quelquefois en groupe plus restreint dans le cadre d'un bureau, une dizaine, mais aussi dans les assemblées générales où on débat de tout cela, une trentaine, une quarantaine de personnes, pour essayer de voir ensemble quelles sont les lignes de force du présent, c'est extrêmement passionnant.
Mais comment tous les trois vous expliquez ce succès qui ne s'est pas démenti, qui ne cesse de s'amplifier de Cité Philo? Peut-être Gérard? Comment, pourquoi ce succès? Mais alors, proche du micro, parce que Gérard, il parle, mais il faut le micro.
J'ai d'abord suivi Cité Philo comme auditeur, tout simplement, parce que je ne me sentais pas de légitimité à m'inscrire dans ce mouvement. Puis, j'y suis venu faire une ou deux apparitions parce qu'il m'avait invité à parler d'un sujet, essentiellement sur l'architecture. Et j'ai compris qu'il se passait quelque chose. J'ai compris vraiment qu'il se passait quelque chose parce que mes étudiants qui étaient des ingénieurs, qui étaient des architectes, allaient à Cité Philo et revenaient avec des envies, des appétits, avec des mots et des problèmes dans la tête. Et je me suis dit donc, après la fin de la revue dont vient de parler Alain, que dès que j'aurai un peu de temps, il fallait que je prenne ce train-là aussi. Ça m'intéressait et dès que ça a été possible, j'y suis allé.
Bon, et vous avez contribué évidemment avec la soixantaine de professeurs de philosophie à faire le succès de cette manifestation, donc qui est gratuite, ça c'est important de le rappeler, qui est populaire, ça vous y tenez beaucoup, mais vous tenez beaucoup aussi à l'exigence de haut niveau. Gilbert insiste beaucoup là-dessus. Le haut niveau, c'est ce qu'il y a de plus important pour Cité Philo.
Oui, c'est vrai qu'on a. Ça c'est vraiment comment dire, le centre de notre philosophie de Cité Philo, c'est que depuis le début, on fait intervenir, on invite des philosophes au travail. Et donc on essaye de concilier cette approche rigoureuse des savoirs, des pratiques, avec une accessibilité publique. Ça ne veut pas dire que tous les qu'on ouvre à tous les publics. D'ailleurs, chacune de nos rencontres s'adresse à certains publics. Hein, des honnêtes hommes, des hommes qui se posent des questions. On est, vous savez, on est aujourd'hui dans un moment historique où on sent bien qu'on passe d'un ancien monde à un nouveau monde. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué d'ailleurs depuis 15 ans. Hein, la crise s'est accentuée, les techniques, notamment les techniques de l'information, mais aussi les biotechniques, ont envahi tous les espaces. Et donc ça touche à toutes les valeurs sur lesquelles nos sociétés s'appuyaient, des valeurs morales, des valeurs politiques, des valeurs culturelles. Et ça nous oblige à les questionner, à les repenser. Et voilà. Et c'est un questionnement général que les gens ont, justement, dans ce moment très particulier dans lequel on vit.
Il y a un grand besoin de compréhension du monde. Et, et Cité Philo remplit peut-être un vide à ce moment-là. Alors, pourquoi vous avez eu envie d'inviter Carlo Ginzburg, qu'on qualifie volontiers de plus grand historien vivant, c'est quand même pas rien. Alors Gérard, il faut qu'il...
Voilà, oui. Ginzburg, c'est un historien très particulier, presque, on peut presque le dire paradoxal. Il est passé longtemps pour quelqu'un qui était assez iconoclaste, provocateur, parce que on le résume par le terme paradigme indiciaire. Alors, paradigme, c'est un mot lourd en philosophie. Hein. C'est pas un mot simple. Ça veut dire que pratiquement un paradigme, c'est une manière de fonder une nouvelle discipline, de lui donner une nouvelle forme de contenu. Et il s'est beaucoup interrogé sur la notion des sciences humaines et sur le côté scientiste que l'on donnait à l'histoire. Et par exemple, il a commencé à expliquer qu'on pouvait faire de l'histoire sans preuve, qu'on pouvait faire de l'histoire en cherchant des indices, des traces. Il a longuement pratiqué la métaphore de la chasse. Il fait du récit de chasse, pour lui, ce qui a probablement été le premier récit dans l'humanité. Et comme disait Pierre Janet, la civilisation commence avec la narration. Le récit de chasse, raconter ses exploits de chasse. Et une chasse, c'est une enquête. Hein, c'est une manière de chercher des traces, de les interpréter, de construire des scénarios. C'est quelqu'un qui assume tout à fait le fait que le mot histoire, même avec un grand H, reste proche de la notion d'histoire, du besoin que nous avons, de la pulsion que nous avons de nous raconter, de mettre en mots. Quelque part, il a accepté de garder un lien avec la littérature. Il est le fils d'une grande romancière italienne qui a été vraiment l'une des plus grandes romancières italiennes. Et je crois qu'il assume cette filiation avec la littérature de façon tout à fait remarquable.
On a dit de lui qu'il faisait l'histoire au ras du sol.
Oui, parce que il veut une histoire du simple, du quotidien, des petits faits. Et il cherche des éléments que d'habitude on n'inscrit pas sur la scène historique. Il les interprète. Il les construit pour fabriquer des choses très différentes.
Et d'ailleurs, il fait aussi l'histoire des vaincus plutôt que celle des vainqueurs. Puisque finalement, la grande histoire, c'est celle des vainqueurs.
Oui, il a fait... Par exemple, il s'est beaucoup intéressé au procès de sorcellerie. Et effectivement, il a lu ça du point de vue des gens qui étaient accusés, condamnés. Il a tout le temps lu le fonctionnement du système judiciaire à partir des victimes. Mais il a aussi, par exemple, très récemment, et en faisant un parallèle entre les deux vraiment étonnant, fait une critique de la justice italienne à propos du procès d'un de ses amis. On en a fait un film d'ailleurs qui s'appelle l'affaire Sofri. Sofri est un militant gauchiste italien qui a été accusé de terrorisme, qui a fait une très longue peine de prison. Je ne me souviens plus de sa durée, mais elle a été très forte. Je crois que ça a été l'un des plus forts condamnés. Et il y a un livre sur Sauffry, qui réanalyse aujourd'hui, finalement, qui refait le problème du procès des sorcières, d'une certaine manière,
L'inquisition,
en montrant en quoi la justice peut ou ne peut pas prendre en compte certaines situations.
Voilà, l'Inquisition revisitée. Alors, à propos de basculement entre l'histoire et les sujets d'actualité, le 9 novembre à 19h30, tout commence avec un débat sur le monde arabe. À l'heure de l'émancipation, il y aura donc Amadi Redici et Fethi Benslama. Gilbert, un mot sur ce débat d'ouverture?
Écoutez, c'est un débat qui est vraiment prise aujourd'hui sur l'actualité, avec deux penseurs qui ont eux-mêmes travaillent déjà depuis des années sur les mouvements qui animent la société arabe. Amadi Redici lui-même, tous les deux sont tunisiens, d'ailleurs ça sera intéressant parce qu'ils vont nous parler des changements actuels en Tunisie. Amadi Redici a participé directement à la révolution tunisienne au printemps. Il enseigne à l'université de Tunis. Fethi Benslama est psychanalyste, il est philosophe et psychanalyste. Il a beaucoup écrit sur le statut de la femme dans l'islam. Ce sont deux laïcs. Hein. Voilà, je crois que c'est une belle ouverture.
Et c'est une ouverture qui, justement, va prendre un petit peu la philosophie de biais. C'est-à-dire que on ne s'attend pas forcément à une ouverture d'un festival de philosophie sur le printemps arabe.
Oui.
Et donc, du coup, ça affirme tout de suite cet éclectisme de l'édition de L'Art du Fer, dans laquelle j'ai relevé... Alors, il y a tous les sujets possibles et inimaginables.
Ah, oui.
Philosophie, psychanalyse, économie, musique, jardinage, cinéma, art, littérature, mathématiques, sport, archéologie, théâtre. Enfin bon, c'est un peu le grand écart.
On n'exclut aucun des domaines de la pensée. Hein.
Voilà, mais c'est ça qui est intéressant.
Et
c'est
du faire.
Et du faire.
Et c'est
mais justement, le faire et la pensée, on va examiner d'un peu plus près ce lien entre les deux.
Oui, c'est ça. Alain Lhomme, peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur la rencontre du 11 novembre à 15h. Donc, la philosophie peut-elle quelque chose dans la crise économique mondiale? Et il y aura donc... Non, c'est plutôt Gilbert.
Oui, c'est plutôt Gilbert.
Voilà. Et il y aura quand même la présence, qu'on espère, de Jürgen Habermas.
Oui, d'ailleurs, vous avez peut-être lu il y a quelques jours un article justement autour de cette question dans le Monde, de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas est de passage en France. Bon, on n'est pas certain de sa venue parce qu'il est âgé, il est fatigué. Mais il fera tout pour venir. Voilà, vous voyez, D'ailleurs, depuis cette année, on a, jusqu'à présent, Cité Philos, on le construisait autour de quatre grands axes, hein, qui étaient l'invité d'honneur, l'actualité éditoriale, le thème de l'année, bien sûr, qui était le plus important, qui a pris beaucoup d'importance d'ailleurs, et puis des initiatives diverses. Et cette année, on a décidé d'intituler un cinquième axe, qui sont les questions controversées, c'est-à-dire des questions qui sont aujourd'hui que les gens se posent, des questions qui sont proches de l'actualité, avec lesquelles on essaie d'avoir un regard un peu distancié. Donc on va parler cette année, vous venez de le dire, du monde arabe, de la crise économique. Il y aura un certain nombre de rencontres autour de ça.
Il y aura même une pièce de théâtre.
Il y aura une pièce de théâtre, absolument, d'Alexandrin, écrite par Frédéric Lordon, qui est un des nouveaux économistes. Je ne sais pas si le terme est juste. Enfin, en tout cas, de l'école dite qualitative et pas quantitative, qui a écrit une pièce très décapante sur la crise financière, notamment, qui est vraiment d'actualité. On va avoir quelque chose sur les catastrophes. Avec quelqu'un qui s'appelle Frédéric Lemarchand, qui a travaillé notamment sur Fukushima et sur d'autres grandes catastrophes. Voilà, donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a choisi aussi d'organiser cette rencontre.
Oui, parce qu'en fait, l'art de faire, c'est ce qui colle beaucoup plus avec l'actualité que d'autres thèmes. J'ai quand même l'impression que c'est plus facile d'appréhender le monde d'aujourd'hui avec ce thème, avec ce fil rouge de l'art de faire, peut-être, Gérard?
Non, je ne crois pas. Je pense que il y a eu une session sur le temps, par exemple, qui a aussi,
oui,
s'est aussi beaucoup
vrai.
Posé de questions. On a toujours des questions qui mettent la pensée philosophique, je dirais, en prise sur le moment. Hein. On n'a jamais, oui. je crois, eu de débat qui pouvait apparaître ésotérique par rapport aux conditions de l'époque. Hein. L'art de faire, ça nous semblait être dans l'air, parce que les rapports entre la pensée et le faire, que ce faire soit artistique, politique ou philosophique, par exemple. Mais non, je pense qu'on gardera régulièrement ce rapport au temps, quel que soit le thème que l'on choisit. On y tient beaucoup.
Mais nos pratiques ont évolué quand même. Nos pratiques
présence,
ont,
oui.
Par exemple, l'arrivée massive de l'informatique a modifié notre rapport à la lecture, à l'écriture, à la peinture même. Enfin,
C'est vrai que que l'art du faire prend beaucoup plus en prise directe cette notion de pratique.
Ouais. Alors peut-être que le jardinage, lui, est resté assez stable.
Ou le vélo.
Et le vélo.
Le vélo.
Oui. Que... Alors donc, peut-être une dernière question sur quelque chose qui m'a intrigué. Moi, il y a une rencontre justement animée par Alain Lhomme et Gérard Rangrand sur la pensée de Luigi Paresson, le professeur d'Umberto Eco. Alors là, par contre, on n'est plus dans l'actualité, on est dans la philosophie pure, le sujet pur, et vous avez 3 minutes pour répondre.
Il se trouve que là, il y a une rencontre un peu fabuleuse, que je dois d'ailleurs à mon ami Gérard. On avait un petit peu pensé ensemble ce thème dès l'an dernier. Je crois d'ailleurs que l'un des points de départ de notre réflexion sur le faire, sur l'art de faire, c'était une conférence qu'avait fait Pascal Dussapin. Qui était venu à Lille et à Cité Philo.
Magnifique.
Et on donnait effectivement un opéra, hein, je crois, du Sapin à l'opéra. Et il était venu en parallèle un dimanche matin parler du livre qu'il venait de publier, où il écrivait comment la musique s'écrivait, comment il produisait finalement son travail, son œuvre. Et ça avait été absolument passionnant. Et Gérard avait eu l'idée tout de suite de mettre ça en rapport avec un thème qui lui est cher, qui est le thème de la poétique. Chez Valérie, puisque dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Valérie voulait une chaire de poétique dans laquelle on entend effectivement le poiein grec, c'est-à-dire l'art de faire, de fabriquer, de produire, et non pas simplement ce qui est advenu, à savoir le mot poétique, qui a une connotation trop esthétique à son goût. Quoi. Et donc, investir ce thème de la poétique, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, qui recoupait certains d'ailleurs de nos travaux personnels, et on avait envie de sortir dans cette direction. Et simplement, il y a deux façons de décliner un thème. Soit on va effectivement le monnayer dans une foule de domaines, du côté de toutes sortes d'arts, de pratiques, de techniques, ici en l'occurrence, hein. Mais on a aussi besoin à un moment de le travailler un peu pour lui-même et de façon plus dense et plus intense. Et on, sur ce thème-là, parce que pour des raisons fondamentales, la tradition philosophique a un petit peu négligé la dimension du faire. Hein, le poiein, de ce point de vue, c'est ce qui a été un petit peu déprécié, abaissé dans la tradition philosophique à travers des couples comme praxis-poiesis ou praxis, quel côté de l'action est valorisé par rapport à la production et à la fabrication. C'est pas tant chez les Grecs. Le couple théorie-pratique aussi est un couple qui a tendance à dévaloriser un petit peu ce qui est de l'ordre du faire. Donc il s'agissait effectivement de travailler à revaloriser et à réhabiliter le thème du faire. Mais on n'avait pas beaucoup d'instruments philosophiques. On n'avait pas beaucoup de grandes philosophies s'étant affrontées à cette question. Et donc, moi, j'ai découvert, grâce à Gérard, le livre de Paresson, Théorie de la formativité, qui, effectivement, est en plein dans cette problématique. Et c'est sans doute la grande philosophie qui s'est affrontée à cette question du faire, de la création des formes. Et c'était un rendez-vous absolument obligé.
D'accord. Eh ben, écoutez, on vous retrouve de toute façon, tous les trois et tous les autres, dans les nombreuses rencontres de Cité Philo. Je les ai pas comptées, mais c'est pas grave.
100.
Il y en a 100, voilà. Il y a aussi beaucoup de grandes pointures, Bernard Stiegler, Pierre-Rosan Vallon, les Pinsons Charlot, etc., etc. Gilbert Glassman, Alain Lhomme et Gérard Rangrand, merci. Cité Philo, c'est du 8 au 29 novembre à Lille et en région Nord-Pas-de-Calais. Le téléphone pour se renseigner, c'est le 03 20 55 66 34.
Je peux rappeler que le site internet sur lequel on peut trouver tout le programme, qui est un site rustique mais on a tout le programme, c'est www.citéphilo.org.